entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas peur de prendre ! Pas peur de prendre !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
La traverse.
Cible !
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Le sport peut-il et doit-il être responsable vis-à-vis de l'environnement ? C'est une question qui agite fréquemment le milieu du sport compétitif, mais aussi amateur, et qui refait surface depuis quelques semaines, notamment à cause de deux polémiques. La première a été déclenchée à Poitiers après que la mairie écologiste a décidé de couper progressivement les subventions des deux aéroclubs de la ville, ces subventions étant de 8 000 euros pour l'aéroclub du Poitou. Cette décision a été justifiée a posteriori sur le compte Twitter de la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, par ces mots.
Les politiques sportives doivent toutes nous aider à réduire autant que possible notre impact sur le changement climatique. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, l'argent public ne doit plus financer, encourager les activités qui sont fondées sur la consommation de ressources épuisables, et les sports motorisés en font partie.
La seconde, elle, provient du monde du cyclisme, après la décision de l'Union Cycliste Internationale d'interdire les jets de bidons hors des zones de délestage. En effet, une tradition dans le cyclisme était de jeter les bidons un peu n'importe où, et notamment vers les spectateurs qui raffolent de ces objets appartenant à leurs idoles et qui font naître des passions. Une décision expliquée ici par Philippe Gilbert, coureur belge et vétéran du peloton.
On ne peut pas faire l'impasse parce qu'aujourd'hui, la chose écologique est au centre de tous les enjeux. Et quand on nous voit, nous coureurs, quand le grand public nous voit coureurs jeter des bidons, il ne peut pas comprendre qu'il y ait zone de délestage, qu'il n'y ait pas zone de délestage. Donc on doit montrer, quoi qu'il en soit, l'exemple.
Mais c'est aussi une décision qui est en partie critiquée par un journaliste d'Eurosport par ces mots.
Voilà, on prive les gamins qui sont les futurs acteurs de ce jeu plus tard de rêver, tout simplement.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le cyclisme fait parler de lui sur le plan écologiste. Déjà en septembre dernier, Grégory Doucet, le maire de Lyon, dénonçait en plein Tour de France, je cite, « un sport machiste et polluant », en faisant référence notamment aux nombreuses voitures qui suivent les coureurs sur les routes, ainsi qu'à la pratique de la caravane, distribuant plus de 2 millions de goodies aux spectateurs amassés sur les routes. Interrogé sur la probabilité de revoir le Tour de France à Lyon, Grégory Doucet avait alors répondu ceci.
On reverra le Tour de France à Lyon avec une exigence d'éco-responsabilité.
Il est vrai que le Tour de France pose problème et rejoint sur cela un des problèmes majeurs du sport en termes d'empreinte carbone, les spectateurs. En effet, sur le Tour de France, plusieurs centaines de milliers de spectateurs, en comptant beaucoup d'étrangers, notamment des Américains et des Colombiens, se massent sur les routes du Tour et suivent les coureurs. Et parfois, ça donne ça. Alors non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas au milieu de la soirée disco du camping de la charmante commune batave d'Inderlopen, mais bien sur les routes du col du Galibier dans les Hautes-Alpes, à 2400 mètres d'altitude et à 3 km à peine du parc national des Écrins. Cet enjeu est le même pour de nombreux sports, ainsi on estime que par exemple pour la Coupe du Monde de football en 2010 en Afrique du Sud, ça représentait 2 700 000 tonnes de CO2, dont 1,8 seulement pour les spectateurs. Face à ces dérives, rares sont les voix qui s'élèvent de la part du milieu sportif. On peut tout de même citer Bernard Amsalem, président de la Fédération française d'athlétisme, qui réagissait à l'organisation des championnats du monde d'athlétisme à Doha en 2019, où pour faire chuter la température de l'air dans le stade de 35 degrés à 25 degrés, 3000 bouches d'aération avaient été installées dans le stade. Il avait alors déclaré « On est tout à fait dans le sens contraire, on est à des années-lumière de ce qu'on devrait faire compte tenu de l'urgence ». Et bizarrement, sa sortie n'a rien changé par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde de football qui doit se tenir en fin 2022 au Qatar et qui ne comptera pas un seul mais 8 stades climatisés. Et si le Qatar axe toute sa communication sur l'énergie solaire utilisée pour ces stades, c'est aussi une façon de détourner les yeux du fait que 6500 ouvriers sont déjà morts dans la construction des stades et des infrastructures liées à l'organisation de cette compétition. Chez les sportifs, c'est la biathlète française Célia Aymonier qui avait expliqué sa prise de retraite en mars 2020 en déclarant « Alors je me pose la question, que reste-t-il du plaisir à skier sur des pistes enneigées artificiellement, à des températures supérieures à 0 degré, à faire des entraînements sur des pistes raccourcies pour préserver la neige ? Je n'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. Et bizarrement, cette année, rien n'a changé et les canons à neige ont tout autant tourné sur les sites de compétition. Alors, d'où doit venir le changement ? Quand on voit la polémique déclenchée pour 8000 euros à Poitiers, on voit mal d'autres maires aller dans ce sens. Les sportifs ? À part les footballeurs et les golfeurs, on voit mal qui serait en position de se priver, ne serait-ce que financièrement, de ces événements qui sont au cœur à la fois de leur travail et de leur passion. Reste alors le public sur lequel un travail éducatif pourrait être fait, mais ça risque de prendre du temps, à moins qu'une pandémie ne tienne tout le monde éloigné des stades.